Mesdames, Messieurs, bonjour à tous. Alors, développons un petit peu à propos du Portugal et du patrimoine tout à fait prestigieux du Portugal. Après Tomar, donc ce monastère Notre-Dame de la Victoire à Bataia, et avant toute chose, lorsque l'on aborde ce patrimoine prestigieux du Portugal, il faut avoir à l'esprit un tragique événement. Nous sommes le 1er novembre 1755, c'est le jour de la Toussaint et à l'heure de la grand-messe, à laquelle d'ailleurs le roi José Ier était en train d'assister à Belém, une brève secousse d'une puissance tout à fait inouïe fait de la resplendissante Lisbonne un immense champ de ruines, et vous savez que Voltaire s'est fait le témoin de cette catastrophe dans Candide, et il écrit ceci: épouvantée, la population se précipita vers le rivage pour être engloutie presque aussitôt par un énorme raz-de-marée qui avala plus de 10 000 personnes à la fois. Alors un vent violent se leva et durant 3 jours attisa l'incendie qui avait pris dans la ville presque toute en bois. Et il faut rappeler que donc au milieu du XVIIIe siècle, Lisbonne comptait à peu près 250 000 âmes environ, c'est-à-dire la moitié de la population du royaume était concentrée ici à Lisbonne. Alors bien sûr, il est impossible de chiffrer le nombre des victimes, pas moins de 30 000, au moins 30 000 morts ce jour-là, soit effectivement par le séisme, soit par le raz-de-marée, et puis donc les conséquences bien sûr. Voltaire lui parlera de 40 000 morts, certains spécialistes trouvent que le chiffre est un peu excessif, donc mais au moins 30 000 morts. Et pourquoi faut-il avoir cet événement à l'esprit? Parce qu'on se dit effectivement que les constructions antérieures à 1755 ont beaucoup souffert de l'événement. Or, Bataia, comme Tomar que j'ai présenté la semaine dernière, Bataia a résisté au séisme de 1755, ce qui fait de Bataia aujourd'hui un joyau de l'architecture gothique tardive, un haut lieu de l'histoire du Portugal, au même titre que Tomar, et donc on va découvrir des choses qui, je ne dis pas, ont été pour certaines restaurées, mais qui, dans l'ensemble, est tout à fait authentique. C'est une très très belle illustration du gothique tardif. Alors bon, pour cette séance et cette présentation, vous avez besoin du document que j'avais distribué la semaine dernière, c'est-à-dire qu'il peut être pratique. Donc sur ce document, vous avez deux choses, la succession dynastique portugaise, et au verso, vous avez le plan du monastère Notre-Dame de la Victoire à Bataia. Il me reste quelques exemplaires du document que j'ai distribué la fois précédente, éventuellement. Voilà, vous avez commenté ce tableau dynastique la fois précédente, et on se souvient de ce que l'on avait dit à propos notamment de la première maison, de la première dynastie, qui était la maison de Bourgogne. On avait dit que cette maison se terminait d'une façon assez brusque en 1383, c'est-à-dire sous le règne de Ferdinand Ier. Et on se souvient effectivement que ce Ferdinand Ier ne laissait qu'une fille, elle s'appelle Béatrice, et que cette dernière était mariée à Jean Ier de Castille, la Castille étant l'allié de la France. Ainsi, le dernier souverain de la maison de Bourgogne, qui a régné de 1367 à 1383, donc donnait sa fille en mariage à ceux qui allaient être considérés comme des ennemis des Portugais, c'est-à-dire les Castillans. Alors que la noblesse était favorable à la candidature castillane, c'est-à-dire que la noblesse voulait effectivement que le roi de Castille soit désormais maître du Portugal, on avait expliqué la fois précédente que la bourgeoisie, au contraire, se groupait autour d'un prince national qui s'appelle Jean, grand maître de l'ordre d'Avis. Ça tombe bien, on avait présenté un peu la semaine dernière l'ordre d'Avis. Ce Jean est bâtard de Pierre Ier, c'est la raison pour laquelle vous avez entre parenthèses Jean bâtard, effectivement il était le bâtard de Pierre Ier, demi-frère de Ferdinand, et après 2 années troublées, c'est lui, c'est donc ce Jean, grand maître de l'ordre d'Avis, qui est désigné comme roi par les Cortes de Coimbra. Nous sommes au printemps de l'année 1385, la bourgeoisie contre la noblesse choisit effectivement ce Jean, maître d'Avis. Alors ceci nous conduit à nous rapprocher de la statue équestre que l'on voit sur cette très belle et très grande place qui met donc en valeur d'une façon magnifique ce monastère. Donc on s'approche de la statue et vous avez ici le personnage qui a joué un rôle décisif donc dans ces événements à propos de la transmission du pouvoir à Jean Ier. En effet, le 14 août 1385, c'est-à-dire quelques semaines seulement après l'avènement de Jean Ier, qui avait été choisi par la bourgeoisie par les Cortés de Coimbra, le connétable Nuno Alvarez Pereira, dont vous avez ici la figure équestre, certes elle n'est pas de l'époque, elle n'est pas du XIVe siècle, elle est contemporaine, bon, enfin c'est une belle image de lui. Ce dernier mettait la chevalerie castillane en déroute à la bataille d'Aljubarrota. Il était aidé en cela par un corps d'archers anglais, alors que les Castillans étaient aidés par les Français, et effectivement, mettant en déroute la chevalerie castillane, il confirmait une indépendance portugaise, et cette indépendance était par ailleurs encore appuyée par une alliance avec l'Angleterre. Il y a un traité de Windsor qui sera signé en 1386 par Jean, qui est devenu maintenant Jean Ier, et l'Angleterre, et puis surtout confirmer cette indépendance portugaise, ce lien aussi avec l'Angleterre, par le mariage de Jean Ier avec la fille de Jean de Gand, qui s'appelle Philippa de Lancastre. Le mariage s'est fait en 1387. Ainsi, vous avez trois années qui ont été décisives pour l'histoire du Portugal. 1385, la bataille d'Aljubarrota qui est remportée par, ceux qui étaient partisans de Jean Ier. 1386, le traité de Windsor. Et 1387, le mariage avec la fille de Jean de Gand, c'est-à-dire le mariage de Jean Ier et de Philippa de Lancastre. Alors signalons que tous ces succès sont acquis en dépit de l'opposition de la noblesse et du clergé, qui ces derniers regardaient la reine de Castille, c'est-à-dire comprenez bien Béatrice, comme l'héritière légitime du trône. Mais cette dynastie d'Avis, avec les appuis notamment l'Angleterre, allait résister effectivement à la Castille et allait s'imposer définitivement à partir de 1387. La dynastie d'Avis, par ailleurs, s'appuyait sur la bourgeoisie. La bourgeoisie a eu aussitôt l'idée de créer une noblesse nouvelle, c'est-à-dire que l'ancienne noblesse était discréditée parce qu'elle était alliée de la Castille. Donc on crée une nouvelle noblesse recrutée parmi les fonctionnaires qui étaient autour de Jean Ier, qui étaient surtout pris au sein de la bourgeoisie. Cette idée aussi est fondamentale pour asseoir, l'indépendance du Portugal par rapport à la Castille, et comment la Castille regardait effectivement ce royaume du Portugal établir son indépendance. Et alors c'est pendant ce règne de Jean Ier, donc Jean Ier d'Avis, si l'on veut, c'est la nouvelle dynastie qui commence, l'ancienne était la dynastie Bourgogne, là maintenant c'est la dynastie d'Avis. Jean Ier a régné, comme l'indique sur votre document, de 1385 à 1433. Donc c'est pendant son règne que le Portugal commence sa grande aventure maritime et coloniale. Et il faut remarquer quelque chose, que l'expansion vers l'Afrique, quand les Portugais partent effectivement à la conquête de l'Afrique, cette expansion n'est d'abord qu'un prolongement de la reconquista, de la reconquête de la péninsule ibérique sur les musulmans. Les catholiques, effectivement, bien partis dans cette reconquête, surtout à l'époque à laquelle nous sommes, on sait qu'à cette époque, il ne reste plus qu'un royaume musulman, un petit royaume musulman, certes brillant et puissant quand même, mais petit. C'est le royaume de Grenade à cette époque. Donc partant effectivement, les catholiques vont plus loin et ils se rendent en Afrique. Et dès 1415, par exemple, les Portugais s'emparaient du port marocain de Ceuta. Le port marocain de Ceuta était déjà aux mains des Portugais. Puis à partir de là, des expéditions plus lointaines seront seront préparés par un fils de Jean Ier qu'on avait évoqué, je crois, un peu la semaine dernière, que vous retrouvez évidemment dans le tableau dynastique. C'est le prince Henri le Navigateur. Il n'a jamais été roi du Portugal, mais par contre, il a été très très attaché à l'idée de ces expéditions lointaines, de ces expéditions qui sont à la fois scientifiques, des expéditions missionnaires, des expéditions aussi mercantiles, qui apportera beaucoup d'argent donc au Portugal. Donc, et c'est bien sûr Manuel Ier qui va en profiter quelques temps plus tard. Et remarquez une chose, que Henri le Navigateur, qui est donc un fils de Jean Ier, Henri ne prendra part à aucun voyage. Par contre, il a été l'inspirateur et l'organisateur des grandes découvertes portugaises du XVe siècle. Donc, il s'est joué du temps de Jean Ier d'Avis des événements, il y a eu des faits décisifs pour l'avenir du Portugal, et entre les deux hommes, Jean Ier et son fils Henri le Navigateur, c'est tout le destin du Portugal finalement qui se joue et qui s'est très très bien joué, c'est-à-dire que les Portugais ont su effectivement tirer leur épingle du jeu par rapport aux Castillans, par rapport aux Français et même par rapport à l'Angleterre. Bon, alors c'est pas bien sûr le but, on va pas faire un cours d'histoire sur le Portugal, quoique c'est quand même une histoire qui est assez fascinante et même très passionnante. Donc on va revenir à notre monastère, le monastère de la Victoire. Quelle victoire? La victoire qui est célébrée justement sur la grande place du monastère en question, la bataille d'Aljubarrota. Alors, revenons effectivement à notre monastère. Voici une façon de le présenter. On a bien compris que pour célébrer sa victoire à Aljubarrota sur les Castillans, le roi Jean Ier d'Avis, qui, je le redis, a été roi de 1385 à 1433, fondait Batalha, c'est-à-dire ce monastère Notre-Dame, qu'il allait confier aux Dominicains. À partir de là, il prenait en même temps la décision d'en faire le panthéon de la nouvelle dynastie qui se mettait en place, la dynastie d'Avis. Et Batalha est par ailleurs, parallèlement, l'un des plus importants ensembles gothiques de l'Occident. Je dis bien de l'Occident, c'est-à-dire c'est effectivement très très vaste, comme Tomar. Mais à Tomar, par contre, on a tous les styles. On avait repéré le style roman, le style gothique tardif et le style manuélin. Ici, c'est du style gothique, avec quand même une pointe de manuélin. On va effectivement le distinguer dans un instant. Alors, il y a déjà des noms d'architectes qui sont signalés. D'abord, un premier architecte qui est portugais, qui s'appelle Afonso Domingues. C'est lui qui dessine ce couvent gigantesque à partir de 1388. Les dates qui sont données, 1388-1402, sont les dates au cours desquelles il travaille au plan et à la construction, en tout cas le début de la construction du couvent. 1402, c'est sa mort. Donc il est mort en 1402. Et en 1402, c'est David Huguet, ou encore Huguet, on trouve Huguet sans le H dans ce cas, O-U, sans le H, enfin Huguet, le français, il est français effectivement, c'est un architecte français, qui va continuer le chantier jusqu'en 1438, comme c'est indiqué, 1402-1438. Il faut rappeler bien sûr qu'à l'époque à laquelle nous sommes, la notoriété des architectes français, des architectes gothiques, couvre toute l'Europe. Les architectes français sont appelés à Prague, on avait dû le dire dans un programme donc d'une précédente année, à Prague ou ailleurs, même on peut les retrouver à Vienne par exemple. Alors, donc quoi qu'il en soit, cet ensemble que l'on va découvrir devait influencer tout un cycle de construction, dont celle par exemple du Carmel de Lisbonne. Le Carmel de Lisbonne a été construit donc à ce moment précis entre 1393 et 1423. Et là vous tenez justement un édifice qui n'a pas du tout résisté au tremblement de 1755, le Carmel de Lisbonne. C'est quelque chose qui a été effectivement particulièrement ruiné. Par contre, donc Batalha influence tout un cycle de construction. Ce cycle est lié évidemment au grand élan national nationale de l'indépendance. Ça marche au Portugal comme ça a marché en France, comme ça marchera partout. C'est-à-dire que un style artistique est généralement un support de la propagande d'une nation, d'un roi, d'un État, que sais-je. Hein. Pensez par exemple, il ne faut pas jamais oublier ce qu'est à l'origine le style gothique. Le style gothique, c'est le style donc, des rois de France, c'est-à-dire c'est Saint-Denis, c'est l'architecture qui s'est mise en place au milieu du XIIe siècle et qui va devenir l'architecture française par excellence, qu'on appellera plus tard gothique. Hein. C'est une façon de dévaloriser ce style. Mais enfin, le style gothique, c'est d'abord un style français qui naît à Saint-Denis et qui sera effectivement le support d'une propagande du royaume de France. Ou pensez plus tard à ce que sera le style Louis XIV. Le style Louis XIV est un style extrêmement engagé sur un plan politique. Bon, enfin, c'est pas le lieu de parler du style. Quoi qu'il en soit, effectivement, on a ici un cycle de construction qui est lié au grand élan national de l'indépendance, et c'est sur ce chantier de Batalia que, par ailleurs, se prépare, vers 1500, on va voir plus précisément de quoi il s'agit, quelques-unes des premières expressions symboliques du style manuélin. On a découvert à Tomar des manifestations absolument superbes du style manuélin. On en retrouvera, quand on parlera de Lisbonne, ça sera le dernier cours du programme, et on va en découvrir ici, mais il semble que là, ça se mette en place progressivement autour de 1500. On va y revenir, bien sûr, sur ce point dans un instant. Alors, quand on regarde le plan que je vous projette ici, qui n'est pas celui que vous avez est un plan, disons, didactique, quand on regarde celui que je vous propose sur la projection, on devine que cet ensemble qui appartient au gothique tardif présente des jeux de voûtes particulièrement complexes. C'est l'intérêt, effectivement, du plan. Il restitue le plan des voûtes. Pas seulement le plan du monastère, mais aussi le plan des voûtes. Et on se doute qu'il y en a quelques-unes qui sont extrêmement complexes, comme par exemple ici, là, c'est-à-dire au sud du monastère, la chapelle du fondateur propose, on le voit un petit peu sur le plan, une voûte en étoiles que je vais vous présenter, qui est absolument superbe. De même que l'on pourrait aussi évoquer la voûte en étoiles de la salle capitulaire, et sur le plan que vous avez ici sur la projection, ou le vôtre, bon, pourquoi pas, remarquez la dimension tout à fait considérable de cette salle capitulaire. Elle propose des proportions incroyables. Or, si le plan que je vous montre, on peut se rapprocher, laisse croire qu'il y a un pilier au centre pour porter cette voûte qui est gigantesque, bon, il n'y a pas de pilier au centre. Hein, donc, c'est-à-dire, c'est un espace qui est complètement vide, mais voûté d'une seule voûte qui tient par elle-même, qui propose un plan en étoile qui est absolument superbe. Et il resterait finalement aussi à évoquer un troisième endroit où une voûte en étoile se met en place, en tout cas ici sur le plan que je vous montre. C'est la voûte des chapelles inachevées, mais attention, cette voûte en étoile n'existe pas et n'a jamais existé, mais elle devait se profiler comme ça, c'est-à-dire en étoile. Et on ne peut pas se tromper quand on restitue le plan de la voûte comme on l'a sous les yeux, c'est-à-dire qu'il y a suffisamment de départ de nervures, c'est-à-dire, je le montre ici avec mon pointeur, au niveau des 8 gros piliers qui sont ici, qui font la chapelle dite inachevée, ou la chapelle inachevée au pluriel, donc il y a suffisamment de nervures pour dire effectivement que le profil de la voûte aurait ressemblé à ce que l'on a ici, c'est-à-dire une étoile. Alors bon, voilà, donc c'est une première approche. Donc vous, de votre côté, sur votre document, vous avez ce plan. Alors c'est un plan didactique qui est quand même bon, pratique pour se repérer, et on va aussitôt dater les différentes parties. Maintenant qu'on a la référence précise, chronologique de Jean Ier qui a voulu ce monastère pour célébrer la victoire d'Aljubarrota, on a les architectes qui ont travaillé pour lui et qui ont travaillé aussi pour son fils, Édouard. Soyons peut-être un petit peu plus précis quant aux campagnes de construction. Avant ça, on va présenter le monastère. On commence par l'église. L'église présente une nef de 8 3V. La nef présente 3 vaisseaux, et donc la nef est divisée en 8 3V. On les compte facilement. La nef conduit à un transept qui est assez large, assez saillant. Et sur ce transept se greffe un chevet de type bénédictin à chapelle échelonnée. Donc c'est effectivement un type de chevet qui a été mis au point par des bénédictins. A priori, ce sont les Clunisiens qui, très tôt, pour Cluny II, donc la deuxième église de Cluny, qui au Xe siècle proposait pour la première fois ce type de plan bénédictin. Vous le retrouvez dans la région, pas plus loin qu'à Saint-Sever, par exemple, ou à la Somme Majeure, ça se fait dans les Landes, ou à la Somme Majeure, vous avez effectivement ce type de plan bénédictin qui se définit comme ça. Il faut effectivement qu'il y ait une abside principale qui soit plus large et plus longue que les absidioles, qui sont donc échelonnées par rapport à l'abside principale. Mais il faut aussi qu'il y ait une communication entre les chapelles en question ou les absides en question. Et c'est le cas, effectivement, il y a bien une porte d'accès qui permet de passer d'une chapelle à l'autre, d'une abside à l'autre. Donc on a bien effectivement un chevet de type bénédictin, chapelle échelonnée, et on reprend un petit peu donc la chronologie. Donc pour l'instant, donc on a l'image d'une église. Il n'y a pas la chapelle du fondateur, pas encore, ni non plus que les chapelles inachevées. Donc on reste sur l'église, et il est vraisemblable que le premier projet, le projet d'Alfonso Dominguez, dont vous avez pris le nom tout à l'heure, architecte portugais, son projet prévoyait une église halle. Ça veut dire une église où les collatéraux de l'église, les couloirs latéraux si vous voulez, s'élever aussi haut que le couloir central ou le vaisseau central. Bon, sans doute que ce projet d'église halle était inspiré par Philippa de Lancastre, car on sait effectivement que le type d'église halle vient du nord de l'Europe. C'est diffusé très largement en Angleterre, mais aussi en Flandre. Or, elle est la fille de Jean de Gand, et c'est au nord de l'Europe que l'on voit se développer l'église de type halle. Bon, où les trois vaisseaux sont de même hauteur, si vous voulez. Bon, mais c'est le nouvel architecte, l'architecte d'origine française, c'est-à-dire David Huguet ou Huguet, qui abandonne ce parti au cours du second quart du XVe siècle, vous aviez pris les dates tout à l'heure, et il décide quant à lui de surélever le vaisseau central afin qu'il soit éclairé directement par les fenêtres hautes. C'est donc un changement de parti, mais qui est tout à fait révélateur, c'est-à-dire que dans un premier temps, Alfonso Dominguez était marqué par une influence anglaise, en tout cas nordique, et David Huguet, lui, arrive et propose des solutions françaises. En France, vous avez quelques églises de type halle, mais ce n'est pas ce qui l'emporte, loin de là. Bon, alors quoi qu'il en soit, l'église que vous avez notée sur votre plan en 1, la chapelle du fondateur qui est notée en 2, le cloître royal qui est noté en 3, cloître qui est aussi appelé cloître de Jean Ier, date bien des règnes de Jean Ier et de son fils Duarte, c'est-à-dire Édouard, qui va régner de 1388 à 1438, si je ne me trompe pas. Et à cette période, donc des deux souverains, Jean Ier et Duarte, ou Édouard, à cette période se rattachent aussi les constructions de la salle capitulaire, c'est-à-dire notée 4 sur votre document, du réfectoire noté 5 sur le document, c'est-à-dire ici, donc à l'opposé de la salle capitulaire, du dortoir qui est noté 6 et de la cuisine qui est notée 7 à ce niveau-là. Donc là, vous avez repéré tout ce qui date du règne ou des règnes de Jean Ier de son fils Duarte. Mais il y a d'autres éléments qui se surajoutent à ce que l'on voit, à ce que l'on a dit. Par exemple, Alphonse V a régné de 1438 à 1481. Il a pris la succession de Duarte, donc du précédent, Alphonse V, poursuivez l'œuvre en ajoutant un second cloître, qui est noté 8. Donc logiquement, je vous l'ai mis, voilà, cloître d'Alphonse V. Vous avez la chronologie à côté de vous. Donc Alphonse V a régné de 1438 à 1481. Et demandez à un architecte dont vous aurez le nom tout à l'heure, Fernão Dévora, de réaliser ce cloître, qui est effectivement très intéressant, mais qui ne vaut pas le cloître royal, dit royal, ou cloître de Jean Ier, car en effet, à l'époque de Jean II, Jean II est le fils d'Alphonse V, donc du précédent, à l'époque de Jean II et de son cousin Manuel Ier, le fameux Manuel Ier, qui va lui succéder en 1495, on va reprendre le remplage des baies du cloître royal, donc notez 3, je parle du remplage, c'est-à-dire ce que je pointe ici sur la projection, le remplage, on va le voir tout à l'heure, tout ça est repris à l'époque de Jean II et de Manuel Ier, on reprend ce remplage des baies du cloître royal, ainsi que le portail qui permet d'accéder aux chapelles inachevées. Les chapelles inachevées devaient être le panthéon donc d'Édouard, de son épouse et des enfants d'Édouard. Bon, mais ça a été laissé inachevé. Par contre, on va reprendre le portail qui est ici, avec cette ambition de terminer donc la construction, ce qui ne sera jamais fait finalement. Et alors, pourquoi c'est important? Parce que ça veut dire que dès 1495, finalement, dès la fin du XVe siècle, c'est ici, à Batalia, que va se mettre en place les racines, pourrait-on dire, du style manuélin. Le grand architecte, qui est l'architecte à la fois de Jean II et de Manuel Ier, est Mateus Fernandez le Vieux, vous aurez la référence de son nom tout à l'heure. Il a été actif de 1490 à 1515, 1490-1515, ça représente bien les deux règnes de Jean II et de Manuel Ier, et c'est lui qui, ici, va, semble-t-il, poser, donc, en tout cas, il est un des premiers qui pose effectivement le style manuélin. Quant à Jean III, si vous suivez bien le tableau dynastique, a succédé à Manuel Ier. Jean III, qui lui succède en 1521, va délaisser Batalia. Pourquoi? Tout simplement parce que à Lisbonne, il y a déjà le couvent des Hiéronymites de Belém qui a été construit, qui est un ensemble prestigieux, que je vous montrerai bien sûr donc quand on parlera de Lisbonne, c'est incontournable. Bon. Et Jean III a préféré effectivement donner plus d'importance à ce couvent des Hiéronymites à Belém qu'à Batalia. Donc il va délaisser Batalia, mais enfin, à l'époque de Jean III, c'est-à-dire au XVIe siècle, le couvent était achevé dans un style gothique, repris dans un style manuélin, le tout premier style manuélin, donc c'est-à-dire qu'on avait un ensemble qui était, si vous voulez, terminé. Voilà, donc alors, là vous avez les campagnes de construction, les références chronologiques que vous avez sans doute notées sur le plan que vous avez, et à partir de là, on peut donc découvrir ce monastère, et on va commencer très naturellement par l'église, car vous avez compris que la première chose que l'on a construite, c'est effectivement l'église. Alors, on revient au niveau de la place que l'on avait tout à l'heure, on découvre là ici, à droite, la chapelle du fondateur, bon, sur laquelle je reviendrai tout à l'heure, et l'on voit sur le parvis de l'église, vaste parvis qui a été là aussi extrêmement dégagé pour mettre en valeur ce joyau de l'architecture gothique tardif, on voit effectivement la façade qui se dresse avec tout un jeu de pinacles. Alors ça c'est intéressant, donc la répétition des pinacles comme si on avait affaire à un modèle milanais dont ça rappelle un peu la cathédrale de Milan avec ses pinacles incroyables, sa forêt de pinacles que l'on visite puisqu'on peut aller effectivement sur les toits. Bon. Alors, effectivement, c'est tout à fait révélateur, ça, cette forêt de pinacles, d'un style gothique tardif, de même que le remplage des baies que l'on voit au niveau de la chapelle du fondateur est aussi typique d'un gothique tardif. On se rapproche de quelques détails, de quelques éléments, pour signaler effectivement que ces pinacles sont ornés de gargouilles qui sont absolument spectaculaires. Les pinacles en question pèsent de tout leur poids sur des contreforts. Les contreforts sont ici nécessaires pour annuler la poussée qui est exercée par les voûtes que l'on imagine à l'intérieur, notamment ces voûtes en étoiles qui ont une portée tout à fait fantastique. Donc il faut effectivement des contreforts comme cela et des pinacle au-dessus pour les alourdir. Mais donc il ne manque pas d'être tout à fait, comme on pourrait dire, pittoresque finalement ces pinacles, avec ces gargouilles, ces têtes qui sont donc monstrueuses pour certaines, plutôt comiques pour d'autres, ou en tout cas caricaturales pour d'autres. Enfin voilà, donc ces gargouilles sont effectivement un élément du décor qui apporte effectivement une note légère, un peu plus légère, à l'architecture, à la construction. Alors on se rapproche effectivement de la façade, et la partie centrale de la façade occidentale, on le voit, est percée d'un profond portail. On voit le jeu de voussure qui creuse comme ça donc le mur de la façade. Donc portail qui propose de multiples archivoltes qui vont se terminer par un arc en accolade. On va se rapprocher dans un instant, mais effectivement il y a un très bel arc en accolade. La façade ne présente que deux niveaux. Au niveau supérieur, c'est une ouverture donc tout à fait monumentale, avec un remplage fantastique qui se découvre. La façade est plutôt assez étroite. Il n'y a pas de porte latérale au rez-de-chaussée des côtés. Donc c'est une façade tripartite sur les petits côtés. Il n'y a pas d'accès effectivement, mais des fenêtres plus modestes au-dessus. Alors on se rapproche des deux éléments qui sont les plus spectaculaires de la façade, le portail et la fenêtre haute. Voici les deux éléments. On voit effectivement ce jeu de voussure qui se creuse, ou ce portail qui s'évase, comme vous voulez. Donc l'arc en accolade qui est terminé par un fleuron, ça c'est tout à fait caractéristique du gothique tardif, d'autant plus que le rempart est orné de motifs qui sont des motifs de fleurons. Et on remarque le réseau de nervures qui court sur le mur. Alors ce réseau de nervures a son importance, donc je vais me rapprocher pour pas qu'il y ait de confusion. Vous voyez, au-dessus de l'arc en accolade, de part et d'autre du fleuron magnifique qui flanque, enfin qui couronne plutôt le rampant, il y a donc des, comme un quadrillage finalement, on pourrait presque y voir un quadrillage. En fait ce sont des nervures qui courent sur le mur. Ces nervures sont plutôt fines, elles nous acheminent vers un motif de losange ou de soufflet au-dessus, et là vous avez ici quelque chose qui rappelle le gothique anglais, et notamment le gothique perpendiculaire. Plus précisément, quand on voit un mur qui est couvert comme ça de nervures et des nervures qui se croisent, on pense au style gothique perpendiculaire, dont un des plus anciens témoignages se trouve dans le cœur et le transept sud de la cathédrale de Gloucester. Donc c'est-à-dire que dès le XIVe siècle, entre 1333 et 1350, les Anglais avaient mis au point leur gothique perpendiculaire. C'est-à-dire quelque temps seulement avant Jean Ier, avant que ce Jean Ier n'épouse Philippa de Lancastre. Dès 1333-1350, le gothique perpendiculaire existait en Angleterre. C'est la cathédrale de Gloucester, plus précisément le chœur et le transept sud. Et là, vous avez une influence directe du gothique perpendiculaire. Si vous avez du mal à le visualiser, c'est pas compliqué. Prenez comme référence le Parlement de Londres. Certes, le Parlement de Londres est néo-gothique, hein, il est bien sûr postérieur à son incendie qui avait immortalisé Turner, mais le style du Parlement de Londres est un style perpendiculaire, c'est un néo-gothique perpendiculaire si vous voulez. Et donc vous visualisez très bien ces nervures sur la façade du Parlement de Londres. Bon, alors donc ça il fallait je pense le dire. Vous avez à droite au-dessus la superbe fenêtre qui propose un remplage d'une complexité extraordinaire. On a mis en évidence dans le remplage une sorte de rose. La rose est une ouverture circulaire qui est remplie de motifs sur lesquels on reviendra tout à l'heure. Mouchette asymétrique ou motif de soufflet. Enfin, c'est un remplage qui est d'une rare complexité. Alors, on va se rapprocher du portail parce que ça ne vous a pas échappé. Le portail propose aussi une iconographie. Donc, l'iconographie est extrêmement simple en fait. Sur le tympan, on va découvrir les symboles des quatre évangélistes accompagnant donc un motif christique. Et sur les voussures, on voit effectivement des anges, mais il y a aussi des patriarches, des prophètes, les évangélistes sont là, des personnages effectivement de l'histoire sacrée qui remplissent les voussures, tandis que sur les pieds droits, en dessous des voussures, dans des niches ou des dés, il y a les apôtres, donc six apôtres d'un côté, six de l'autre. on se rapproche de tout ça. D'abord peut-être le couronnement. Le couronnement est très très beau. Voici effectivement de plus près, alors d'abord dans ce motif de nervure verticale qui renvoie au gothique perpendiculaire anglais, puis vous retrouvez bien l'arc en accolade qui est rythmé par des fleurons, coiffé d'un superbe fleuron, et cependant cet arc en accolade dessine un espace dans lequel donc il y a une iconographie, c'est le couronnement de la Vierge. On voit effectivement le Christ ou Dieu le Père, comme vous voulez, qui est ici, qui pose une couronne sur une figure qui est agenouillée. C'est bien sûr Marie, c'est le couronnement de la Vierge au ciel ou aux cieux, comme vous voulez. Donc c'est effectivement une iconographie banale à l'époque à laquelle nous sommes. L'iconographie mariale l'emporte très largement, surtout dans des grands ensembles comme celui-ci. Et sur le tympan, donc si on se rapproche, voici le tympan. Donc effectivement, vous avez la représentation des quatre évangélistes, facile à identifier grâce à leur symbole. Un lion ailé, ici en bas à droite, va désigner Marc. Que je ne me trompe pas, ici le taureau ailé qui va désigner Luc. Ici l'aigle qui va désigner Jean. Et enfin l'homme ailé qui désigne bien sûr l'évangéliste Matthieu. Donc il flanque ou accompagne une représentation du Christ en majesté, qui a son orbe dans sa main et qui est coiffé d'un dé majestueux, donc il est assis en majesté sur un trône coiffé d'un dé qui est vraiment majestueux. Il y a des reprises, je pense que vous le voyez. Il y a des détails effectivement qui ont dû être repris, restaurés si vous voulez, qui se distinguent assez facilement. C'est aussi très vrai pour les statues des apôtres. Voici quelques-unes, enfin je vais vous présenter en fait les 12 apôtres. Donc là effectivement il y a quelques parties, voire quelques statues qui ont été refaites si vous voulez. On voit d'ailleurs qu'il y a des parties qui sont beaucoup plus blanches, qui sont des restaurations, mais enfin, bon, ça donne une idée extrêmement précise de ce qui est à la fois le portail, donc quand il a été achevé, et très bonne idée aussi de l'iconographie de cette époque, c'est-à-dire des années 1400. Là, nous sommes autour des années 1400 quand on est confronté à cette iconographie sculptée. Et donc, il ne faut pas s'étonner si, autour de 1400, on emprunte à un sculpteur qui est Klaus Flötter, le grand sculpteur du moment, c'est Klaus Flötter, donc celui qui a travaillé à Dijon, à la chartreuse de Champmol notamment. On lui emprunte son style qui est extrêmement puissant, c'est-à-dire un style où les plis sont profondément creusés pour justement créer des effets plastiques, des effets d'ombre et de lumière. Ça se voit très nettement ici, par exemple. Donc les figures sont enveloppées dans des habits qui sont lourds, où les plis sont creusés, mais ça leur donne effectivement une force, une présence aussi physique et une majesté, et ça doit beaucoup quand même à la sculpture de Klaus Flötter, ou de son neveu Klaus de Derbe. Voilà, remarquez aussi la qualité des dés qui coiffent ces têtes, ces personnages. Enfin voilà, c'est une très très belle iconographie, un très beau portail, malgré les reprises qui sont contemporaines. Alors nous pénétrons à l'intérieur de cette église, voici l'église. Premier constat que l'on peut faire et qui est donné par les touristes qui donnent une proportion justement à l'ensemble, les grandes arcades du rez-de-chaussée montent extrêmement haut, s'ouvrant ainsi largement sur les collatéraux. Et avec cette vue, on remarque bien que les collatéraux sont plus bas, les voûtes des collatéraux sont plus basses que les voûtes du vaisseau central. Donc on a bien ici la reprise de David Huguet, l'architecte français, qui reprenait le projet du premier architecte de façon à lui donner à cette église une allure quand même un peu française, mais enfin, on va nuancer ce point, c'est moins français qu'anglais finalement quand on regarde cet ensemble, excepté que ça n'est plus une église halle, vous l'avez compris, mais une église avec une nef centrale plus haute que les collatéraux. Pourquoi l'élever plus haut, de façon à pratiquer au-dessus des grandes arcades du rez-de-chaussée des ouvertures qui permettront d'apporter un éclairage donc dans les parties hautes de la voûte centrale. Donc c'est majestueux, c'est sobre, on joue sur la répétition des colonnettes qui vont filer le long des grosses piles. Le plan de la pile est traditionnel, c'est le plan de la pile chartraine, donc qui a été mise au point bien plus tôt, donc à Chartres si vous voulez, et des petites colonnettes qui vont filer comme ça jusqu'à des chapiteaux qui sont extrêmement discrets, de façon à ne pas trop interrompre l'effet d'élévation ou d'élancement. Alors on peut aussi s'attacher aux voûtes. Les voûtes sont très intéressantes. Hein. Remarquez les grands arcs du rez-de-chaussée, dont vous les retrouvez ici, à gauche par exemple, ou encore ici à droite. Les grands arcs du rez-de-chaussée sont surmontés, sont bel et bien surmontés par des baies. C'est tout l'intérêt du projet de David Houguet, éclairer la partie supérieure donc de la nef, si vous voulez. Donc, mais les baies que l'on a ici sont aussi réduites, sont des baies réduites, dans le sens où elles n'occupent pas pleinement le mur haut. Alors que si on avait affaire à une architecture typiquement française, un gothique français aurait évidé le mur, hein, donc il n'y aurait plus eu de mur du tout. Tandis que là, vous avez quand même une partie qui est rentrante, si vous voulez, une partie du mur, une partie qui montre la fenêtre, qui s'évase dans le mur, qui rentre dans le mur, si vous voulez. Hein. Un parti français aurait effectivement supprimé carrément ces détails. Hein. On pense par exemple à la Sainte-Chapelle, qui est une construction bien antérieure à ce que vous avez ici, par exemple. Bon. Alors, ce sont des baies réduites, effectivement. Ensuite, alors, on apprécie les voûtes d'ogives. Elles sont établies sur un plan barlon. Elles retombent sur les fameuses piles que j'évoquais, les piles fasciculées d'une grande sobriété. Une pile fasciculée est une pile qui est composée de colonnes, colonnettes. Bon, on les voit ici, les petites colonnettes qui filent comme ça. Et ça contraste beaucoup avec l'extérieur. Il y a un contraste entre l'extérieur dont on a vu qu'il y avait des pinacles, des gargouilles, où les fenêtres à remplage extrêmement compliquées l'emportent. L'apparence extérieure semble plus riche que l'apparence intérieure, ou plutôt l'intérieur semble plus sobre que ce que l'on a pu voir à l'extérieur. Alors insistons sur les trois colonnettes. Les trois colonnettes des piles fasciculées, les trois colonnettes qui sont tournées vers le vaisseau central. Ah, donc on les compte ici, 1, 2, 3. Vous allez retrouver donc les mêmes trois colonnettes à côté, 1, 2, 3, et c'est vrai pour toutes les piles. Donc ce qui est intéressant, c'est que ces trois colonnettes montent sans interruption jusqu'à la voûte, sans interruption excepté donc quelques chapiteaux, mais qui restent extrêmement discrets, qui n'enlèvent rien effectivement à l'effet d'élévation ou d'élancement de la construction. Ajoutons à cela peut-être que ces chapiteaux sont le seul élément de décor, si l'on accepte en tout cas le remplage des baies. Il y a le remplage des baies, soit qui apporte un effet décoratif, les baies qui adoptent un dessin flamboyant, on va le voir dans un instant, mais sinon donc c'est très sobre. En dehors des chapiteaux, en dehors du remplage des baies, il n'y a pas de décor, pas véritablement. Et remarquez d'ailleurs que pour les voûtes, on a fait là aussi assez simple, donc ce sont des voûtes sur croisées d'ogives, pour lesquelles on a rajouté ce qu'on appelle des liernes. Les liernes sont ces nervures qui se croisent à angle droit. Mais on aurait pu, comme on l'a vu la semaine dernière, dans la nef de la Charola, on aurait pu rajouter des tiercerons. On ne l'a pas fait, donc de façon justement à simplifier le dessin de l'architecture. Un petit mot sur le cœur que vous avez ici à gauche. Et donc là, le document permet aussi d'apprécier un de ces remplages de baies, et on s'aperçoit effectivement que c'est toujours renouvelé, toujours très complexe, un dessin qui joue sur des courbes et des contre-courbes. Hein. À droite notamment, ce qui est frappant, c'est le dessin ici en soufflet, comme un soufflet de cheminée. Et c'est le terme que l'on utilise pour désigner effectivement ce type de remplage composé de soufflets, le motif du soufflet. Quand il se déforme, ce soufflet, on parlera de mouchette, et donc quand c'est très déformé, de mouchette asymétrique. C'est ce qu'on va retrouver là, dans la partie supérieure. Hein. Voilà. Mais ce qui est intéressant quand on découvre le cœur de l'église, c'est qu'on va retrouver ce principe des arcades du rez-de-chaussée extrêmement hautes, par ailleurs très étroites, très brisées aussi. On s'aperçoit que le déambulatoire est ajouré, donc c'est-à-dire autour du rond-point ou de l'abside ou du sanctuaire, il y a un couloir, hein, c'est ce qu'on appelle le déambulatoire, qui est largement percé d'ouverture, donc ce qui apporte aussi une source de lumière incroyable, que l'on retrouve bien sûr à l'étage. autre vue d'ensemble de ce plan des voûtes, si vous voulez, de l'effet aussi que provoquent les fenêtres hautes. Vous voyez qu'on a beaucoup insisté sur les chambranles des fenêtres, sur les voussures des fenêtres. En fait, il y a trois voussures qui retombent sur des colonnettes. Ça, c'est pas du tout caractéristique d'un principe, d'une construction française. Et quand on voit les voûtes avec leurs liernes, les clés pendantes, et c'est surtout vrai effectivement dans le chœur, puisque vous avez ici à gauche en bas le plan de la voûte du chœur, et on voit effectivement quelques clés pendantes, ça évoque automatiquement les cathédrales anglaises. Donc, insistons, il existe une filiation avec le gothique perpendiculaire, cette fois-ci, d'York et de Cantorbéry, tout à fait perceptible dans le voûtement de l'église, comme on pourrait d'ailleurs le retrouver, ce type de voûtement, à Santa Clara, à Coimbra, par exemple, hein, où vous trouvez ce type de voûte qui doit beaucoup, effectivement, à la référence anglaise. Et pourtant, on l'a dit, l'architecte, le deuxième architecte, était français. Mais voilà, il faut effectivement que le Portugal affirme son indépendance, trouve un style qui soit pas tout à fait celui des Anglais, qui ne soit pas non plus celui des Français qui, rappelons-le, étaient les alliés des Castillans. Et donc, on trouve ici quelque chose qui est entre les deux, quoi, finalement. Hein. Voilà, alors on ressort de cette église de façon maintenant à considérer la chapelle dite du fondateur, le fondateur étant bien sûr Jean Ier qui fait construire ce monastère à l'issue de la bataille d'Aljubarrota. Alors on sait, parce que vous avez toujours le plan sous les yeux et qu'on l'a dit tout à l'heure, que l'église a été complétée par deux chapelles funéraires. On découvre la première, c'est-à-dire celle qui est au sud, à côté de la façade. Donc c'est celle que je pointe là ici. Hein. Donc là vous avez la chapelle de plan carré qui est volumineuse, donc à côté de la façade et qui est destinée à abriter le tombeau de Jean Ier et de son épouse, Philippa de Lancastre. Donc deux plans carrés, la chapelle abrite à l'intérieur un octogone. Hein, il y a une curiosité quand même dans l'architecture médiévale portugaise, on aime les constructions octogonales. Et pas plus tard que la fois précédente, à Tomar, on avait vu la charola, c'est-à-dire la rotonde des Templiers, avec son cœur qui était octogonal. Et c'est quand même tout à fait frappant, c'est-à-dire que quand on entre, oui, quand on découvre finalement l'intérieur de la chapelle du fondateur, ça ne manque pas finalement d'évoquer, avec ses huit gros piliers extrêmement puissants, ben, la charola qu'on a vue la semaine dernière. La différence, bien sûr, c'est que la charola est romane, de style roman, nous l'avions dit, tandis que là, vous avez affaire à un style gothique tardif, nous sommes autour de 1400, enfin, au moment où va mourir Jean Ier, à la fin du règne de Jean Ier, si vous préférez. Alors oui, plan octogonal, et alors à partir de là, huit pans s'ouvrent par des arcs polylobés à fleurons qui sont absolument superbes. Déjà, effectivement, on voit que l'on adopte un style gothique, dans cette chapelle en tout cas, un style gothique qui tranche avec l'église, un style gothique qui va jouer avec des éléments décoratifs qui sont très subtils cependant, c'est-à-dire qu'ils ne vont pas pour autant occulter l'architecture. L'architecture restera lisible, mais les éléments décoratifs sont beaucoup plus évidents ici que dans l'église. Hein. C'est pour ça qu'il fallait effectivement insister sur la sobriété de l'église afin d'accentuer le contraste avec la chapelle du fondateur. Alors bon, là je ne sais pas si vous vous rendez bien compte du plan octogonal. Dans ce cas, on peut avancer d'un pas, c'est-à-dire se mettre à peu près dans l'octogone et regarder effectivement donc la voûte qui se profile au-dessus. Et là, vous allez mieux comprendre effectivement quand on parle de plan octogonal. Comptez effectivement, vous avez bien 8 pans. Mais les 8 pans sont bien au rez-de-chaussée ouverts par ces grandes arcades brisées avec ces motifs polylobés sur lesquels je reviendrai. Alors voilà donc comment ça se profile. Donc des arcades au rez-de-chaussée, 8 arcades, et des fenêtres hautes qui cette fois-ci sont beaucoup plus sobres que celles que l'on a vues dans l'église. Mais c'est sans doute cette sobriété pour mettre en valeur la voûte. La voûte est extraordinaire. On ne peut pas la comparer effectivement avec les voûtes de l'église ou même du reste du monastère, bon, à part peut-être ce que l'on verra dans la salle capitulaire dans un instant. Mais enfin, la voûte est extraordinaire. Voûte en étoile, dont les nervures reposent donc à l'angle des 8 pans. Et alors c'est admirable comment les nervures vont converger comme ça, et par l'intermédiaire d'un chapiteau, elles convergent et sont portées par une fine colonnette qui se trouve à l'angle des pans, si vous voulez, des 8 pans. Donc alors là-dessus, c'est un jeu de nervures extrêmement compliqué, puisqu'on voit les nervures qui se répètent, et on va jouer sur des liernes et sur des tiercerons, ainsi que sur des nervures qui sont bien effectivement des nervures d'ogives. Et à l'intersection des liernes et des tiercerons, donc se trouvent des clés de voûte en étoile, mais les nervures convergent toutes, à part bien sûr les tiercerons, vers la clé principale, et quand on se rapproche de cette clé, c'est absolument magnifique, parce qu'on s'aperçoit que dans les moindres détails, les sculpteurs, les tailleurs de pierre ont voulu fouiller le décor, le travailler, en faire une sorte de guipure, si vous voulez, et c'est ça finalement, c'est une guipure de pierre en fait, hein. En tout cas la clé ici est une guipure de pierre, ainsi que les 8 autres clés qui l'accompagnent. Alors bon, je ne sais pas si la photo est très nette, mais quand même, bon, oui, elle est très nette, hein, elle est très très nette, oui, la photo, elle est très très nette, hein. C'est pas moi qui l'ai faite, hein, cette photo. Mais si, elle est très très nette. Et donc vous avez effectivement un jeu ici tout à fait superbe, là, d'une clé très vaste, rayonnante, donc avec les armes, bien sûr, c'est les armes de la maison d'Avis, que l'on voit au centre, mais un travail donc ajouré, superbe. Voilà, donc il faut partir aussi du principe qu'il y avait des peintures qui étaient riches, qui ont par contre, pour ces dernières, disparu pour la plupart. Enfin bon, ces ensembles sont peints, hein, ces enfants sont peints, ils ont été dès l'origine. Hein. Alors, on reste bien sûr attaché à la chapelle du fondateur, on revient au rez-de-chaussée, on commence à voir se profiler le tombeau, ici, qui est au centre de l'octogone, c'est-à-dire le tombeau de Jean Ier et de Philippa de Lancastre, mais arrêtons-nous quand même un peu sur ces arcs qui sont superbes, et dans la perspective de ces arcs, les ouvertures, les fenêtres, ce qu'on appelle le remplage des baies. Et là, on va retrouver effectivement un dessin d'une complexité qui est absolument extraordinaire. Bon, à quoi répond justement la voûte en étoile qui est au-dessus. Donc on peut se rapprocher, vous voyez, c'est là que l'on va découvrir des motifs, alors qui sont divers. Vous allez trouver des quadrilobes, mais vous allez trouver aussi des mouchettes asymétriques. Donc c'est le motif du soufflet, comme un soufflet de cheminée, mais qui va se déformer. Alors par exemple, je le pointe ici, là, précisément ici, ou là, juste à côté, vous avez le motif de la mouchette asymétrique. Bon, et on retrouve le motif du soufflet aussi, qui est donc plus droit, si vous voulez, des quadrilobes, enfin, un dessin d'une complexité superbe. Hein. Puis, bon, alors effectivement, il y a les arcs du rez-de-chaussée. Donc là, ici, on retrouve cette vue qui permet donc effectivement de retrouver à gauche, là, le tombeau de Jean Ier de Philippa de Lancastre. Donc, j'insiste encore un peu, là, sur ce bel arc qui est ici. On va se rapprocher à ce propos. Donc, il y en a 8, comme ça, au rez-de-chaussée, qui dessinent l'octogone, ou qui portent la voûte au-dessus en étoile. À vous de voir comment vous voyez les choses. Donc, de plus près, on s'aperçoit que c'est extrêmement complexe comme profil. Donc le profil des arcs est bien ogival et on joue sur des ogives qui sont toujours très pointues. L'arc brisé en question est monté sur une haute partie droite que je pointe. Effectivement, c'est haut, c'est long, si vous voulez. On aurait pu raccourcir cette partie. Non, on a voulu créer là un effet d'élancement et du même coup, on va multiplier ces lobes brisés à fleurons qui contiennent à l'intérieur 3 petits lobes. Donc vous avez bien un arc polylobé, les grands lobes sont légèrement brisés, et à l'intérieur vous avez des petits lobes au nombre de 3. Donc c'est juste pour dire, voilà, on a fouillé le décor, c'était pas utile si vous voulez, on n'était pas obligé donc de créer ces effets, hein, mais on les a voulu ici, sans doute par souci de contraste avec l'église. L'église à l'intérieur est beaucoup plus sobre que ce que l'on voit ici. Alors pour donner plus de cohérence à ce que l'on voit, voilà une photo qui montre donc l'intérieur de la chapelle. Vérifiez bien qu'elle est de plan carré, ce que montrent ces deux murs dans lesquels sont placés des enfeux, dans les enfeux des tombeaux, on va y revenir dans un instant. Bon, donc les piles qui sont ici, les trois piles, sont trois des huit piles de l'octogone qui sont décrites, enfin que l'on pourrait décrire comme je l'ai fait à l'instant. Et donc au centre, et c'est tout l'intérêt bien sûr, au centre, le tombeau. Alors on s'approche du tombeau, le tombeau de Jean Ier et de Philippa de Lancastre. Donc voici ce tombeau, il est monumental, il est porté par des emblèmes, et ces emblèmes sont tout à fait caractéristiques du monde funéraire, ce sont des lions. Les lions effectivement marquent le courage, la force de Jean Ier. Et donc ça renvoie à la bataille d'Aljubarrota. La cuve est assez monumentale, par-dessus un couvercle de sarcophage sur lequel se trouve le gisant de Jean Ier, d'un côté bien sûr, hein, d'un côté du couvercle le gisant de Jean Ier, avec un dé gothique dont on voit les détails à l'intérieur, qui sont très très travaillés, là aussi, un travail très très fouillé, en plus d'ailleurs de la calligraphie gothique que l'on voit, ou des fleurons que l'on voit en dessous, bon, et dans les moindres détails, le roi effectivement a été représenté, c'est-à-dire avec sa couronne, ses emblèmes, son vêtement. De l'autre côté, c'est Philippa de Lancastre qui est représentée, donc en gisante là aussi, on voit sa tête à ce niveau-là, sa couronne, et le dé est effectivement un élément qui les met en valeur. Hein. On peut s'approcher d'ailleurs du dé, hein, et en même temps donc de la tête. Voilà donc l'intérieur du dé, l'extérieur aussi. Alors c'est bien du gothique. À l'extérieur, on retrouve bien ce qui est caractéristique, l'arc en accolade, le rampant est décoré de fleurons, et donc la partie supérieure de l'arc en accolade est un fleuron, mais très développé, flanqué de pinacles qui là aussi se développent, n'en finissent pas à se développer. À l'intérieur, par contre, une voûte en étoile, un peu à l'image de celle qui coiffe l'octogone en question, tout à fait superbe. Quant aux murs latéraux, donc les murs latéraux présentent des enfeux, donc c'est-à-dire des arches, si vous voulez, ou des arcs qui sont profondément creusés. C'est ce qu'on appelait donc à l'époque antique arcosolium, donc extrêmement profond, de façon à abriter des tombeaux, des sarcophages. Bon. Alors, le problème quand on voit cette image qui est ici, c'est que la plupart des tombeaux ont été remaniés au XIXe siècle. Cependant, il y a là des tombeaux de personnages extrêmement importants. J'attire votre attention sur Ferdinand le Saint. C'est le 1, le 1, donc le Ferdinand le Saint. Ferdinand le Saint, pourquoi le Saint? Parce qu'il est considéré comme un martyr. Il est le martyr de Fès, donc le martyr qui a été pendu par les pieds dans une prison du Maroc en 1443 pour ne pas avoir abandonné la fameuse forteresse de Ceuta. On se rappelle effectivement que les Portugais avaient pris Ceuta dès 1415, c'est-à-dire dès le temps de Jean Ier, de son fils Édouard, et ce Ferdinand le Saint donc, a résisté aux musulmans en 1443, mais il a été fait prisonnier et il a été torturé. A priori, il n'y a pas lieu de contredire cette histoire, pendu par les pieds dans une prison du Maroc. Enfin, donc c'est le martyr de Fès. Hein. Et donc c'est lui, donc, Don Fernando, là, l'enfant saint, si vous voulez, Ferdinand le Saint. Et j'attire aussi votre attention sur Henri le Navigateur. Henri le Navigateur, dont on a dit effectivement que c'est lui qui avait donné cette impulsion aux grandes expéditions que les Portugais allaient mener. Il n'a pas participé à des expéditions, mais par contre il est à la racine de ces grandes expéditions qui ont fait la fortune du Portugal. Hein. Bon. Alors voilà donc pour la chapelle du fondateur, l'église que l'on a vue. Alors on va aussitôt dans le cloître de l'église, le vaste cloître. Alors pour l'instant, je n'en dis rien. Ce que j'en dis, c'est juste l'essentiel. C'est le cloître royal, le cloître de Jean Ier. C'est un beau cloître carré de 50 mètres de côté. 50 mètres de côté, c'est énorme. Hein, c'est-à-dire que parmi les monastères européens de cette époque, ça compte parmi un des plus vastes, un des plus grands cloîtres qui existent. Bon. Mais je n'en dis rien pour l'instant, parce que vous le voyez, ou plutôt vous l'avez deviné, les paix du cloître ont été reprises à une époque plus tardive, à la fin du XVe siècle et même début XVIe. Alors par contre, on va emprunter ces galeries de cloître, et sur un côté du cloître se trouve évidemment la salle capitulaire. Voici donc la galerie qui est la galerie orientale du cloître royal ou cloître de Jean Ier. Et quand on emprunte cette galerie du cloître royal, on voit de ce côté donc une ouverture qui est tout à fait monumentale, flanquée d'ouvertures qui sont de style gothique. L'architecture reste tout à fait conforme au gothique, disons, des années 1400, c'est-à-dire, effectivement, on le voit, donc, ce sont des baies géminées avec des motifs de trilobes. Au-dessus, on joue sur des médaillons, sur des oculi, sur des roses, comme vous voulez, qui sont quadrilobées, bon, et ceci fait le décor et l'entrée de la salle capitulaire. Avant d'y entrer, j'attire votre attention sur les chapiteaux qui sont sculptés, qui donc reçoivent les nervures du portail, des déboussures du portail, ou de l'entrée donc de la salle capitulaire. Je dis rien sur la voûte de la galerie, mais quand même, donc cette voûte est conforme finalement à celle que l'on a vue à l'intérieur de l'église, c'est-à-dire une voûte plutôt sobre, hein, c'est-à-dire avec ogive et lierne. Il n'y a pas de tierce rond, et ça va contraster énormément avec les baies, les ouvertures donc, qui donnent sur le cloître, où là effectivement c'est un style manuélin qui contraste fortement avec ce que l'on a sous les yeux. Alors rapprochons-nous quand même des chapiteaux qui sont ici, parce que c'est toujours très élégant. Vous voyez que par exemple les architectes, donc ici c'est encore David Huguet, donc joue sur des colonnettes extrêmement fines. Donc les voussures, effectivement, sont comme cela allégées, les voussures, les pieds droits donc, de l'entrée. C'est extrêmement allégé par un jeu de fines nervures ou de colonnettes très fines. Donc ce qui fait que les chapiteaux ont un profil très très particulier. Ils sont très étroits du même coup, mais très hauts. Très très haut, de façon à y porter une iconographie, figure d'anges, essentiellement des anges, qui sont représentés. À l'époque à laquelle nous sommes, les chapiteaux n'ont plus l'allure des chapiteaux romans. Les chapiteaux romans étaient historiés, donc narratifs, figuratifs. Les chapiteaux gothiques peuvent être encore figuratifs, ils sont rarement historiés, et c'est surtout des motifs végétaux qui l'emportent. Hein. Bon. Enfin, le plus extraordinaire, c'est bien sûr la salle capitulaire elle-même. Donc on passe la porte en question, et voici la salle capitulaire en question. Et elle est démesurée. Vous avez à ce propos un repère, une proportion, ici un petit personnage. En fait, ce personnage est un soldat, qui est par ailleurs gaillard, si vous voulez, il a, je sais pas, il a 1m80, quoi. Bon, alors ça vous donne la démesure de cette voûte, enfin de cette voûte, oui, de cette salle et de la voûte, bien sûr. Hein. À ce propos, le militaire qui est ici garde le monument aux soldats inconnus, ce qui fait de ce monastère de Batalha, encore aujourd'hui pour les Portugais, un endroit qui est extrêmement chargé de symboles, puisque c'est là que l'on trouve le monument aux soldats inconnus. Donc très naturellement, le monument est gardé par deux soldats, vous n'en voyez ici qu'un seul, mais il est suffisant pour donner la proportion de la salle. Alors vous retrouvez ici le nom de l'architecte, le premier architecte, celui qui a précédé donc Huguet. Donc s'il s'agit de Afonso ou Alfonso, comme vous voulez, Dominguez, bon, et donc il crée, il imagine une voûte étoilée qui a une portée de 27 mètres. 27 mètres, c'est la diagonale du carré, si vous voulez. Le côté du carré, c'est 20 mètres, et la diagonale, c'est 27 mètres, hein, si je ne me trompe pas. Donc il faudra le vérifier quand même. Quoi qu'il en soit, vous avez ici une portée hors norme, c'est-à-dire que pour l'époque autour de 1400, on ne connaît pas de voûte qui serait d'une portée aussi considérable. C'est très rare, donc c'est très très audacieux. D'ailleurs, il y a une anecdote qui est révélatrice du fait qu'on était conscient à l'époque du côté extraordinaire de cette voûte. L'histoire dit que l'architecte Afonso Dominguez est resté 3 jours et 3 nuits dans la salle en question, après avoir retiré les étais, les étais en bois qui soutenaient effectivement la voûte. Il serait resté 3 jours et 3 nuits dans cette salle après avoir retiré les étais, de façon à rassurer les frères dominicains du couvent de la solidité de la construction. Car il faut préciser quand même que c'était la 3e tentative de voûtement pour la salle en question. Mais parce que la portée est considérable, 27 mètres, hein, finalement on pourrait dire qu'il faudra attendre Brunelleschi, le grand architecte Brunelleschi, l'auteur du Duomo de Florence, pour avoir effectivement une voûte, une coupole, un dôme d'une portée encore supérieure à ce que l'on a ici. Mais près de 30 mètres de portée, c'est effectivement considérable pour l'époque. Hein. Ça montre qu'on a affaire à des architectes qui maîtrisent parfaitement donc, la construction gothique, hein, les principes de la construction gothique. Hein. Alors voilà, alors, par ailleurs, donc, il aurait pu finalement créer une voûte simple, bon, d'une portée aussi importante, mais simple. Il a voulu une voûte en étoile, et donc on va retrouver effectivement ce jeu de nervures que l'on peut qualifier d'ogives, si vous voulez, de liernes auxquelles se joignent les tierces ronds à l'intersection des clés. Ceci est purement décoratif, ne partez pas du principe que les nervures en question portent quoi que ce soit, sans doute même pas les ogives, hein, sont même pas censées porter quoi que ce soit, là, là on est si vous voulez dans des critères architectoniques qui nous dépassent totalement, hein, donc ce sont les secrets des maçons là ici, hein, donc c'est très très difficile à comprendre comment effectivement ça tient tout cela, hein. Parfois donc on a des voûtes aussi complexes où toutes les nervures sont tombées, mais les voûtins sont restés. Parfois c'est le contraire, les voûtins sont tombés, mais les nervures sont restées. Donc on ne sait pas en fait, hein. C'est très difficile à distinguer. Alors, remarquez aussi comment habilement l'architecte passe du carré de la base à l'étoile qui est au-dessus. Hein. Donc il a imaginé des trompes aux angles, hein, des trompes voûtées là aussi de nervures, bon, aux angles, et enfin sur un plan strictement esthétique, même si bien sûr c'est quand même assez grand, bon, remarquez la finesse des colonnettes qui vont se alors je vais m'approcher d'ailleurs, je vais zoomer, donc les nervures de la voûte, les nervures qui se fondent finalement pour n'en faire plus qu'une, portée par un chapiteau, lui-même porté par un jeu de colonnettes très fines. Décidément, c'est un style qui se répète, les colonnettes aux voussures de la fenêtre, par exemple, au niveau donc des piles, que sais-je. Hein. Avec, bien sûr, ça paraît ici très fin et très petit, attention quand même à bien repérer la proportion, remarquez le soldat. Gaillard, qui est devant la pile, justement, qui donne quand même la proportion de la pile. La pile est quand même assez épaisse. Hein. Appréciez aussi le remplage de la baie. Et il y a dans un angle, c'est-à-dire une nervure qui retombe sur un culot. Alors, c'est pas celui-ci, c'est celui qui est complètement à droite. Il y a, semble-t-il, le portrait d'un architecte. En tout cas, c'est la tradition de considérer cette petite figure qui est à l'angle dans une trompe de la voûte en question, le portrait de l'architecte précédent, donc l'architecte Alfonso Dominguez. Bon, voilà, donc c'est un très très bel espace, vraiment extraordinaire, et vous l'avez effectivement, j'ai pas insisté, mais vous l'avez bien vu, il n'y a pas de pile au milieu, hein, il n'y a pas de pile au milieu, hein, donc c'est un vaste espace qui est complètement vide de piles. Ça c'est quelque chose qui va fasciner par la suite donc un architecte comme, un théoricien et architecte comme Viollet-le-Duc. Ici, bon, je ne vais pas m'étendre, c'est le dortoir, le réfectoire que je vous présente ici, avec la chaire d'ailleurs qui permet effectivement de dire le sermon. Donc très bel espace là aussi, très simple, très sobre, à part peut-être l'entrée qui est plus travaillée que la salle elle-même. Et nous revenons, maintenant qu'on a vu la salle capitulaire et donc le réfectoire, ainsi que la porte qui donne accès au réfectoire, nous revenons au cloître. Mais cette fois-ci, ce qui va nous intéresser, ça n'est pas le cloître tel qu'il était à l'époque de Jean Ier, le cloître royal de Jean Ier. Ce ne sont pas les voûtes qui se profilent ici, non, ce sont les baies qui sont à gauche, c'est-à-dire ces grandes baies qui vont s'ouvrir sur le cloître lui-même. Et on voit effectivement qu'il y a eu des reprises, des remaniements. C'est le profil de ces petites piles qui font les baies qui s'ouvrent sur le cloître qui le disent. Alors, voyons ça de plus près. Donc, on prend du recul. Donc, voilà donc un autre aspect donc du cloître, et voilà surtout d'autres architectes qui s'affichent. Voilà. Donc après les précédents, c'est-à-dire Alfonso Dominguez et puis donc Huguet, David Huguet ou Huguet, voici un nouvel architecte dont vous avez la référence. Alors en effet, le cloître a été repris par ce Mateus Fernandez le Vieux, actif de 1490 à 1515, c'est-à-dire qu'il est le contemporain de Manuel Ier, et repris après la mort de Mateus Fernandez le Vieux, repris par Diogo Boitaca. Boitaca, on devrait dire finalement Boitac, voire Boitac finalement, car encore une fois on a affaire à un architecte d'origine française, donc Boitac. Boitac, B-O-I-T-A-C, hein, si vous voulez, mais qui est devenu Diogo, donc Boitaca, comme c'est indiqué. Et alors, ce dernier, en 1512, épousait Isabelle Henriquez, c'est-à-dire la fille de l'architecte précédent, de Mateus Fernandez. Donc ça montre effectivement qu'il y a une filiation, voire une dynastie qui se met en place de l'un à l'autre. Alors en effet, il va s'installer Diogo Boitaca à Batalia à partir de 1516, c'est-à-dire après la mort de celui qui était son beau-père finalement, Mateus Fernandez le Vieux. Donc il s'installe à Batalia et c'est là qu'il mourra en 1528. Donc ces deux architectes, le beau-père et donc le beau-fils, les deux architectes sont extrêmement importants, ils vont faire un travail admirable ici à Batalia. À ce propos, les deux sont inhumés dans le monastère de Batalia. Vous trouvez les tombes de l'un et de l'autre dans le monastère. Alors, on prend du recul. On prend du recul pour mettre en valeur maintenant ce travail de ces nouveaux architectes. Et ce qui va nous intéresser, c'est, je le redis encore une fois, comment ils ont réaménagé ces grandes baies, ces grandes ouvertures qui donnent sur le cloître. On voit les choses comme ça, un petit peu différemment. Vous voyez donc comment se profilent ces ouvertures. Donc elles sont très ajourées, il y a comme une sorte de panneau donc ajouré qui retombe sur 5 colonnettes. Le voûtement des galeries est tout à fait traditionnel, il est aussi très antérieur aux architectes que l'on vient d'évoquer, hein, donc c'est-à-dire que le voûtement date de l'époque de Jean Ier. Donc en revanche, les grandes arcades extrêmement larges sont envahies par un jeu extraordinaire de formes taillées dans le marbre, supportées par 5 colonnettes en délit, et j'insiste effectivement, ce que vous allez voir, c'est bien taillé dans du marbre, alors que la pierre qui est utilisée est une pierre calcaire, mais donc le décor de ces grandes arcades hein, est effectivement sculpté dans du marbre, hein, retombant sur 5 colonnettes ou 4 quand il y a effectivement une porte qui donne accès au cloître, hein, donc un accès au cloître, que 4 colonnettes, sinon c'est toujours 5 colonnettes. Hein. Et alors, je pense que déjà sur cette photo, vous reconnaissez des motifs qu'on avait évoqués la semaine dernière, à commencer par exemple ici à droite, à la croix pâtée de l'ordre du Christ, qui indique déjà à quelle époque on se situe, fin du 15e, début du 16e, c'est-à-dire à l'époque de Manuel Ier. Puis, si on se rapproche du remplage qui est à gauche, ce que l'on va faire aussitôt, voici la photo, donc on peut encore se rapprocher davantage pour voir ce très très beau remplage, qui montre effectivement à quel point on est à une époque différente. Effectivement, vous avez aussitôt observé la sphère armillaire, et donc on va retrouver dans ce jeu décoratif qui est vraiment spectaculaire tout ce qui fait les armoiries des rois du Portugal. Outre la sphère armillaire, on pourra retrouver, donc je ne sais pas si c'est le cas ici, les châteaux pris aux morts, ou encore les 5 plaies du Christ, donc la croix pâtée, donc de l'ordre du Christ, on l'a vu. Bon, enfin voilà, donc on va retrouver effectivement ces motifs, et alors on arrive à des solutions décoratives qui sont époustouflantes, que ce soit alors effectivement le remplage lui-même ajouré et extrêmement fouillé sur le plan du décor, ou les colonnettes, ou les chapiteaux, que sais-je, hein. Alors si on reste un petit peu attaché à ce remplage-là, voici les perspectives, hein, donc qui se passent de commentaires d'ailleurs, qui sont vraiment sublimes, hein, tout à fait sublimes, hein. Que ce soit les colonnettes, il n'y en a pas deux pareilles en fait, hein. Les chapiteaux aussi, donc qui offrent un profil qui n'est ni roman, ni gothique, ni flamboyant, mais bon, qui n'est pas non plus tout à fait le style de la Renaissance, quoique ça se rapprocherait peut-être davantage de motifs de la Renaissance. Donc il faut qualifier ce que l'on voit de style manuélin. Vous avez ici une expression tout à fait remarquable du style manuélin. Donc alors si on se rapproche de l'ouverture qui est ici, là, la voici de plus près, sur sa fine colonnette, un jeu de courbes et de contre-courbes, ou alors un jeu de nœuds, donc des formes qui se nouent. Et bien sûr, ça rappelle les éléments constitutifs et iconographiques du style manuélin, tels les cordes, hein, les jeux de cordage qui vont se nouer. On peut le voir d'une autre façon, donc là c'est le revers, vous voyez, où donc d'ailleurs c'est très habile, parce qu'on peut voir aussi se dessiner des croix, bien sûr, mais ce sont des croix qui sont nouées, pour évoquer le cordage, l'iconographie qui renvoie aux grandes expéditions que vous connaissez, que les Portugais ont menées à partir du règne, disons, de Jean Ier, surtout de son fils Henri le Navigateur. Alors là, vous avez d'ailleurs un lavabo, hein, donc ce sont des fenêtres un petit peu différentes, de façon à mettre en valeur un lavabo. Le lavabo est un élément incontournable des monastères, toujours ou quasiment toujours placé à l'angle du cloître, hein, donc du côté bien sûr où se trouve le réfectoire, et le lavabo est vraiment très bien mis en valeur ici. Voici d'autres photos de ce lavabo, ce qui permet effectivement de rejouer sur des arcs très compliqués. On le voit ici à l'étage. C'est du marbre, hein. Le lavabo est en marbre. Hein. Tout est fouillé dans les moindres détails, les têtes qui crachent l'eau justement, ou les vasques qui sont au-dessus, ou les remplages que l'on voit derrière, marqués des remplages complexes. Alors là par contre, oui, c'est plutôt un écho au gothique tardif, mais voilà, donc c'est en fait dans un contexte qui est repris, quoi. Alors ça crée des effets décoratifs splendides. Alors c'est sûr qu'à côté, le cloître d'Alphonse V, souvenez-vous, il y a un deuxième grand cloître, vous l'avez toujours signalé sur votre plan, c'est le cloître d'Alphonse V qui a régné entre 1438 et 1481. Ce cloître d'Alphonse V va paraître extrêmement sobre, mais vraiment très très sobre, comparé au précédent. Le voici, vous avez le nom de l'architecte, Fernão Devora, qui est un grand architecte portugais, mais bon, bien sûr que l'ensemble que l'on a ici, c'est pas que ça mériterait pas un commentaire. Bon, mais après ce que l'on a vu, je pense que c'est pas utile donc de rester plus de temps sur ce cloître-là. Enfin, il fallait le montrer quand même, c'est le cloître d'Alphonse V qui jouxte le précédent. Reste maintenant l'autre chapelle funéraire. On avait dit effectivement il y a deux chapelles funéraires et la deuxième est appelée chapelle inachevée. Donc on va la découvrir d'abord de l'extérieur. Donc elle se trouve toujours au sud si l'on veut, ou plutôt donc si on considère le plan longitudinal de l'église, c'est à l'extrémité orientale qu'on la découvre. Elle est tout à fait gigantesque, de plan centré pour ne pas dire de plan octogonal comme la précédente. Bon, mais l'octogone se dessine autant à l'extérieur qu'à l'intérieur, c'est ce qui apparaît justement sur la photo, avec des chapelles qui sont saillantes. Si d'ailleurs la chapelle s'appelle chapelle au pluriel, chapelle inachevée au pluriel, c'est qu'il y a effectivement des chapelles qui se greffent là au niveau des angles de l'octogone. Alors c'est la seconde chapelle funéraire, elle est due au successeur de Jean Ier, c'est-à-dire Édouard Ier, qui est celui qui a précédé là, donc Alphonse V. Il a vécu entre 1433, enfin pas vécu, il a régné entre 1433 et 1438, et il fait construire cet ensemble, cette chapelle funéraire à l'est pour son propre tombeau, donc une gigantesque rotonde, décidément, amplifié par 8 chapelles rayonnantes, d'où le nom de chapelle au pluriel, donc inachevée. Car l'ensemble a été laissé inachevé, c'est ce que montre très bien sur la photo, les piles qui étaient censées ici porter la voûte en étoile que l'on voyait sur le plan tout à l'heure, mais qui sont comme sectionnées, qui ont été abandonnées tout simplement. Je vous rappelle à ce propos que c'est Jean III, la décision de Jean III, qui a succédé à Manuel Ier, qui décide de mettre en valeur le couvent des Hiéronymites de Belém aux dépens de Batalha. C'est-à-dire qu'on pourrait penser effectivement que si il avait été plus attaché à Batalha, on aurait achevé cet ensemble. Bon, alors quoi qu'il en soit, le style est un style manuélin. à n'en pas douter, dès que vous voyez une fenêtre comme celle-ci, où la colonnette est faite d'un cordage noué, donc on voit d'ailleurs aussi bien la base qu'au sommet ce cordage qui est fait de deux principales cordes qui vont se répandre ensuite pour créer un remplage au-dessus, ou alors le profil inhabituel des moulures, hein, donc que l'on voit effectivement se profiler donc à l'extérieur ici et aux extrémités. Donc là, vous avez une très belle fenêtre manuéline. Il faut rappeler encore une fois que nous sommes à l'origine, hein, du style manuélin, et il faut donc reparler de ce Mateus Fernandez le Vieux. Alors, vous aviez le nom tout à l'heure quand on parlait du cloître qui avait été repris par Mateus Fernandez le Vieux et son beau-fils, actif de 1490 à 1515, donc contemporain de Manuel Ier, mais surtout, mais aussi de Jean II. Donc Jean II, Manuel Ier l'ont fait travailler, ce Mateus Fernandez le Vieux. Bon. Alors c'est effectivement lui qui va reprendre la chapelle funéraire d'Édouard, fils de Jean Ier. Il le reprend et il crée un portail qui est sans doute une des plus belles manifestations du style manuélin. Vous êtes donc derrière le chevet de l'église, derrière le cœur de l'église, plus à l'est. Et si effectivement on veut entrer dans la chapelle en question, ou chapelle inachevée au pluriel, alors il faut passer par ce portail, et ce portail est un chef-d'œuvre, vraiment un chef-d'œuvre. Ah, vous avez vraiment une expression très aboutie du style manuélin. Alors manuélin, hein, faut le rappeler, je le redirai d'ailleurs encore là, donc quand on parlera de Lisbonne, ce style doit son nom au roi Manuel ou Emmanuel le Bienheureux, Manuel Ier si vous voulez, un souverain donc qui venait de découvrir la route maritime des Indes et le Brésil par ailleurs, donc c'est pas rien quand même, et ce style traduit, pourrait-on dire, la résistance que le gothique tardif, opposait à la Renaissance. Mais cependant, dans ce style, vous avez des éléments de la Renaissance, comme vous pouvez trouver aussi des éléments mauresques, et toute une iconographie qui fait écho aux grandes expéditions maritimes lancées par le Portugal. Et alors, la tradition est de dire que c'est un style qui a été proposé par l'architecte français Boitac, si vous voulez, hein, Diogo Boitaca par la suite. Bon, dès 1494, il aurait proposé ce style, notamment au cloître des Hiéronymites à Lisbonne, un style imaginatif, un style qui est surtout défini par le décor, c'est-à-dire, comprenez bien, il n'y a pas d'innovation de structure, hein, dans le style manuélin. On n'innove pas, hein, sur le plan architectonique ou sur le plan des structures, mais le décor, par contre, est très innovant. Hein. Et ensuite développé par tout un tas d'autres architectes, ce que l'on a vu la semaine dernière, ben, souvenez-vous, des deux frères Francisco et Diogo Arruda, qui ont développé le style, ou Castillo, je crois qu'on avait aussi signalé pour le portail du couvent du Christ à Tomar, donc Castillo qui a participé aussi. Bon, enfin, quoi qu'il en soit, quantité d'architectes qui, contemporains de Manuel Ier, vont développer ce style manuélin. Et on se souvient à ce propos, à Tomar, de la fameuse la fenêtre du chapitre qui symbolise un programme stylistique dans lequel on déchiffre toute l'iconographie de la grande aventure océanique des Portugais. Bon. Alors, quoi qu'il en soit, notre Mateus Fernandez est chargé en 1504 par le roi Emmanuel de terminer au couvent de Batalha la chapelle mortuaire. Donc, c'est-à-dire qu'on avait l'ambition de la terminer. Elle restera inachevée, vous le savez, en raison de Jean III qui va délaisser Batalha. Mais c'était bien l'ambition de l'architecte. Mateus Fernandez le Vieux devait terminer effectivement cet ensemble. Et quoi qu'il en soit, il reste au moins le portail magnifique. Donc on le voit effectivement ici dans le détail, donc comment on retrouve l'effet d'une guipure de pierre, tout est ajouré, donc travaillé, fouillé, donc la pierre est évidée pour créer des effets en relief, parfois même en fort relief. Là aussi, il y a peut-être une allusion d'ailleurs au style mauresque, hein, dans le style mauresque, on peut trouver comme ça des panneaux qui sont travaillés et ajourés de cette façon. Hein. Insistons sur les huit piles. Et donc on les voit très très bien ici donc se profiler, les huit piles qui structurent l'intérieur de l'octogone, donc de la chapelle, qui devait porter une voûte en étoile par-dessus. Et on voit très bien aussi sur la photo, aux angles de l'octogone, les chapelles, hein, ce qui donne le nom donc à l'ensemble, les chapelles inachevées. Alors effectivement, on va s'intéresser aux piles, mais vues de l'intérieur. Alors tout ça, effectivement, hein, c'est le remaniement de Fernandès le Vieux. On retrouve les chambranles de son portail, tout à fait fantastique, là aussi, du point de vue du décor extrêmement fouillé. Donc ici, une photo sans touriste. Alors c'est bien et c'est pas bien, hein, les photos sans touriste. C'est bien parce que, bon, ben, ça fait effectivement carte postale, quoi. Mais c'est pas bien parce que ça ne donne pas la proportion. Et la proportion ici, ça paraît pas, mais c'est tout à fait gigantesque, hein. Donc là, on voit très très bien, effectivement, les chapelles qui viennent se loger aux angles de l'octogone, en fait. Bon, c'est au niveau des pans de l'octogone. Et les grosses piles octogonales qui sont projetées par l'architecte, mais laissées inachevées, abandonnées, si vous voulez, du temps de Jean III. Et la photo avec touriste, elle est intéressante. La voici, voyez, à gauche. Voilà. Parce que ça montre la démesure quand même. Hein, ça paraît pas, mais c'est démesuré. Hein, donc vous voyez effectivement la hauteur des entrées, donc des portes des chapelles. Mais au-dessus, donc on avait imaginé une architecture qui devait être encore beaucoup plus haute, bien sûr, portant la voûte en étoile que l'on voyait sur le plan précédemment. Et si on s'approche des piles hautes, des piles supérieures, on va voir ce que ça donne. Et c'est là que vous allez retrouver, entre autres, toute l'iconographie du style manuélin, c'est-à-dire les racines d'un chêne-liège, le liège étant utilisé pour la construction des bateaux, mais encore des allusions aux mâts, cordages, torsades, des motifs végétaux et marins, tels par exemple les coraux ou les algues nouées, ça rappelle la fenêtre du chapitre à Thomar, des câbles marins, des chaînes d'encre, que sais-je, donc c'est un décor qui est vraiment prestigieux. Manuélin, enfin voilà, il n'y a pas d'autre mot, c'est le style manuélin ici qui s'affirme. Ah, c'est dommage, on a perdu effectivement quelque chose qui, si ça avait été achevé, aurait été vraiment splendide. Hein. On voit d'ailleurs le départ des nervures, très très bien le départ des nervures, pour ça qu'on peut effectivement, sans se tromper, recréer le plan en étoile de la voûte, hein, qui avait été projeté par l'architecte. Hein. Voilà. Mais bon, reste au moins ce portail, donc qui est le portail des chapelles inachevées par le grand architecte et qui présente un profil alors vraiment tout à fait splendide. On voit bien que ça relève du gothique tardif, mais il y a des éléments qui sont effectivement un peu différents sur le plan décoratif. Il manque pas d'allure, hein. C'est un portail qui ne manque pas d'allure. Hein. On s'en lasse pas en fait, hein, de le voir, de le photographier sous tous les angles. Et enfin, bon, j'ai conclure, bien sûr, hein, c'est l'heure maintenant. Donc, cependant, dans le décor en question des chapelles inachevées, c'est bien la devise d'Édouard Ier que l'on va retrouver et qui va se répéter dans un cercle de lierre, cette fois-ci, la devise étant « Tant que je serai ». Tant que je serai. Et il reste aujourd'hui un cénotaphe qui est dans une des chapelles donc inachevée justement de l'octogone, donc qui est le cénotaphe d'Édouard et de son épouse. Donc on va retrouver les gisants du roi et de la reine, le roi étant le fils de Jean Ier. Et il y a quelque chose d'assez émouvant, les gisants dans ce cas se prennent la main. Donc à la différence des gisants de Jean Ier et de Philippa d'Ancastre qui étaient beaucoup plus finalement, disons, traditionnels et officiels et orthodoxes, là il y a un détail qui ne manque pas effectivement d'être assez romantique, presque on pourrait dire, hein, assez romantique, c'est-à-dire effectivement le roi qui prend la main de son épouse. Hein. Voilà, mais c'est sur cette image que je termine ce cours. Voilà. Donc, on se retrouvera la prochaine fois pour un autre sujet.